Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, Pascal Sim pour vous présenter cette édition d'Escale. Cette semaine, retour sur l'affaire Jamal Khashoggi. La disparition et la mort du journaliste saoudien ont suscité de vives réactions à travers le monde. Ces dernières semaines, plusieurs experts mandatés par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU ont appelé à faire toute la lumière sur les circonstances de la mort du journaliste saoudien. Affaire Jamal Khashoggi, la parole est aux experts. Mardi 2 octobre 2018, Jamal Khashoggi est à Istanbul, en Turquie. L'année précédente, le journaliste saoudien s'était installé aux États-Unis, où il avait commencé à contribuer au Washington Post. Ce 2 octobre, Jamal Khashoggi se rend au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul pour y effectuer des démarches administratives. Sa fiancée turque qui l'attendait à l'extérieur du consulat ne l'a pas vu ressortir. Le 3 octobre, le porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU est interrogé sur la disparition de Jamal Khashoggi.
Un éminent dissident et journaliste saoudien s'est rendu hier au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul et il n'a pas été revu depuis. Il s'appelle Jamal Khashoggi. Les responsables saoudiens disent qu'il est parti. Les responsables turcs disent que selon leurs informations, il est toujours à l'intérieur. Le secrétaire général a-t-il des préoccupations à son sujet à propos de l'endroit où il se trouve?
Nous espérons certainement que M. Khashoggi sera retrouvé et en sécurité. Bien entendu, nous ne disposons d'aucune information de première main sur ce qui lui est arrivé et nous aurions besoin de plus d'informations pour évaluer tout type de réponse. Mais nous suivons la situation et essaierons de voir ce qui est arrivé. Mais nous espérons certainement qu'il est sain et sauf et qu'on le retrouvera bientôt.
Mardi 9 octobre. Une semaine s'est écoulée depuis la disparition de Jamal Khashoggi. Dans les médias, les informations sur sa disparition font place à celles de sa possible mort. À Genève, Ravina Shamdassani, porte-parole de la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, réagit.
Cette apparente disparition forcée de M. Khashoggi du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul est très préoccupante. Si les informations sur sa mort et les circonstances extraordinaires qui y ont conduit sont confirmées, cela est vraiment choquant. Nous appelons à la coopération entre la Turquie et l'Arabie Saoudite afin de mener rapidement une enquête impartiale et indépendante sur les circonstances de la disparition de M. Khashoggi et de rendre publiques les conclusions de cette enquête. Pour le moment, il reste encore beaucoup de questions sur ce qui s'est passé après l'entrée de M. Khashoggi au consulat. Nous attendrons donc que les choses soient plus claires afin de pouvoir commenter davantage.
Le même jour, trois experts des droits de l'homme des Nations Unies font également part de leur profonde préoccupation sur la disparition de Jamal Khashoggi et sur les allégations de meurtre commis par un État. Les rapporteurs spéciaux David Kay, Agnès Callamard et Bernard Duhem craignent que la disparition de Jamal Khashoggi soit directement liée à ces critiques de la politique saoudienne. Bernard Duhem.
Nous avons manifesté notre désarroi et notre grande inquiétude quant à cette disparition en particulier, qui est choquante. Ceci étant dit, bien que cette affaire ait ses propres spécificités, il s'agit quand même d'une parmi des milliers des disparitions que l'on constate de nos jours.
La disparition de Jamal Khashoggi a soulevé des questions délicates sur le plan diplomatique. Sa disparition a été constatée après son entrée au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, une enceinte protégée par la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires. Le 16 octobre, la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a déclaré que l'inviolabilité ou l'immunité diplomatique des locaux et des fonctionnaires du consulat saoudien devrait être levée immédiatement, compte tenu de la gravité de la situation entourant la disparition du journaliste. Bernard Duhem revient sur la dimension extraterritoriale de cette disparition.
C'est un phénomène qui est de plus en plus fréquent de voir donc des disparitions qui ont un caractère extraterritorial, où des autorités mènent des opérations à l'extérieur de leur territoire pour capturer des personnes. On a documenté plusieurs situations semblables ou qui sont comparables, disons, dans d'autres pays. Et tout ça apparaît clairement dans notre rapport annuel.
Vendredi 19 octobre 2018, 17 jours après la disparition de Jamal Khashoggi, l'Arabie Saoudite, qui a nié pendant deux semaines la mort du journaliste, confirme son décès dans son consulat à Istanbul. Les autorités saoudiennes évoquent une altercation qui a dégénéré et s'est conclue par la mort du journaliste. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est déclaré profondément préoccupé par le décès de Jamal Khashoggi. La directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a elle fermement condamné l'assassinat brutal du journaliste. Les chefs de l'ONU et de l'UNESCO ont tous les deux appelé à ce qu'une enquête approfondie soit diligentée et à traduire les auteurs du meurtre en justice. Un appel peu repris par les États membres de l'ONU et qu'a déploré David Kaye, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté d'expression et d'opinion. De passage au siège de l'ONU à New York le 22 octobre, David Kaye explique pourquoi l'enquête sur l'assassinat manifeste de Jamal Khashoggi doit être indépendante.
J'ai été très déçu de voir que cet appel n'a pas encore été pris en compte par les États. J'engage vivement tous les gouvernements à réagir non seulement dans le contexte du 2 novembre pour mettre fin à l'impunité des crimes contre les journalistes, mais également dans le contexte actuel où les journalistes sont attaqués. Ils devraient intervenir, que ce soit par le biais du Conseil de sécurité, du Conseil des droits de l'homme ou persuader le secrétaire général de le faire. Ils devraient constituer un organe d'enquête indépendant. Cela pourrait être 5 personnes au maximum pour évaluer les informations que les autorités turques ont transmises à la presse au cours des 2 dernières semaines. Ils pourraient enquêter sur des témoins potentiels, ils pourraient parler aux gens, ils peuvent faire ce genre d'évaluation et fournir à la communauté internationale un rapport crédible sur ce qui s'est passé. Cela ne répondra peut-être pas à toutes les questions, mais cela pourrait permettre d'identifier qui est responsable et ce qui s'est exactement passé. Puis ce sera à la communauté internationale de décider quoi faire avec ces informations.
Également de passage au siège de l'ONU à New York le 25 octobre, Agnès Callamard, la rapporteure spéciale des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, a expliqué pourquoi l'enquête doit être internationale et pas uniquement limitée aux enquêtes que mènent chacun de leur côté, l'Arabie Saoudite et la Turquie.
Une enquête approfondie est en effet nécessaire et je ne suggère pas que la Turquie ou que l'Arabie Saoudite n'ont pas la capacité technique de mener à bien une enquête. En tout cas, la Turquie a démontré de façon très claire qu'ils ont les capacités de procéder à cette enquête. Donc, la profondeur de l'enquête n'est pas remise en cause. Ce qui est questionnable, c'est l'indépendance de cette enquête. Et selon David Kaye, le rapporteur spécial sur la liberté d'expression et moi-même, une enquête internationale apporterait un élément de légitimité, de validation qu'une enquête turque ou une enquête saoudienne ne peut pas procurer à la communauté internationale. Pour des raisons multiples qui sont liées au fait que ce sont deux États qui font partie d'un ensemble géostratégique, un ensemble diplomatique. Il y a eu, ça fait 15 jours, si ce n'est plus, que l'affaire se déroule devant les caméras du monde entier, qu'il y a des intérêts, des jeux diplomatiques et politiques qui ont eu lieu. Donc pour toutes ces raisons, nous demandons qu'une enquête internationale soit diligentée. Ça serait une enquête avec un mandat qui lui serait donné soit par le secrétaire général, soit par le Conseil de sécurité, soit par le Conseil des droits de l'homme. Il s'agirait d'un groupe d'experts qui auraient les capacités nécessaires pour revoir et valider les preuves qu'ont déjà collectées les enquêteurs turcs ou les enquêteurs saoudiens. Donc l'idée n'est pas de remplacer ces enquêtes. L'idée est de leur donner une légitimité et une validation que d'elles-mêmes, je pense qu'elles ne pourront pas avoir.
Le même jour, le 25 octobre, le procureur général d'Arabie Saoudite évoque pour la première fois un acte prémédité. Pour Agnès Callamard, au regard du droit international, et jusqu'à ce qu'une enquête légitime prouve le contraire, le meurtre de Jamal Khashoggi porte toutes les marques d'une exécution extrajudiciaire.
Jamal Khashoggi a disparu alors qu'il était dans un consulat d'Arabie Saoudite. C'est une institution qui appartient à l'État de l'Arabie saoudite. Les personnes impliquées, les personnes présentes au moment de sa disparition étaient des représentants de l'État, dont le consul lui-même ou en effet des employés du consulat. Plusieurs jours après, nous avons appris que d'autres représentants de l'État étaient présents au moment de la disparition de M. Khashoggi. Et enfin, finalement, très récemment, il y a quelques jours, le gouvernement saoudien a en effet confirmé que des représentants assez haut placés du gouvernement saoudien étaient impliqués dans la disparition de M. Khashoggi et ensuite dans son exécution. Donc, tous ces éléments sont constitutifs du crime d'exécution extrajudiciaire.
La médiatisation internationale de la disparition de Jamal Khashoggi a mis un coup de projecteur sur les milliers de cas de disparition forcée dans le monde. Des disparitions qui ont pris de l'ampleur, mais qui sont difficiles à quantifier, comme l'explique Bernard Duhem, président rapporteur du groupe de travail de l'ONU sur les disparitions forcées ou involontaires.
C'est évidemment impossible de savoir précisément le nombre de disparitions à l'heure actuelle parce que, par définition, le concept de disparition forcée est un concept qui implique une détention clandestine. Et donc, les autorités capturent une personne, puis nient la détention ou nient le lieu de la détention. Donc, tout ce volet clandestin à l'opération rend la chose très difficile à documenter. Le deuxième aspect, c'est que les familles sont très souvent hésitantes à dénoncer ce type de situation par peur de représailles, d'être sanctionnées pour avoir fait ce type de dénonciation-là. À l'heure actuelle, le groupe de travail, fondé en 1980, a reçu, dans le cadre de son mandat humanitaire, environ 57 000 cas. Il reste environ 46 000 cas qui n'ont pas été clarifiés. Ces chiffres, bien qu'ils soient impressionnants par leur importance, ne révèlent pas du tout l'amplitude du phénomène parce qu'on reçoit simplement une petite portion des dénonciations.
Journaliste dans son pays, l'Arabie saoudite, puis aux États-Unis, Jamal Khashoggi était une voix critique du régime saoudien. Il s'était exprimé à plusieurs reprises sur la situation des droits de l'homme en Arabie saoudite et dans le monde arabe. En 1998, les États membres de l'ONU réunis en Assemblée générale avaient adopté une déclaration appelant à appuyer et à protéger les défenseurs des droits de l'homme. 20 ans plus tard, le meurtre de Jamal Khashoggi s'inscrit dans un contexte de dégradation croissante de la sécurité des défenseurs des droits de l'homme, comme l'explique Michel Forst, le rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des défenseurs des droits de l'homme.
Globalement, la situation se dégrade. Et ce qui me frappe, ce qui m'effraie même, c'est de voir le nombre de morts. On a à l'heure actuelle compté environ 3500 morts depuis que la déclaration a été adoptée. 3500 morts, ça veut dire 3500 assassinats. Ça veut dire aussi 3500 familles qui en fait pleurent leurs disparus. Et ça a un impact considérable sur la situation des autres défenseurs. Et les responsables, c'est au premier chef les États qui, il y a 20 ans, ont pris la décision, par consensus, de mieux protéger les défenseurs. Beaucoup de choses ont été faites, mais il reste encore un long chemin à parcourir pour améliorer la protection des défenseurs. Et l'un des points sur lesquels je mets l'accent, c'est la prévention. Il y a effectivement des assassinats qu'on pourrait prévenir, qu'on pourrait éviter. Et ce faisant, les États donneraient des signaux importants de l'intérêt qu'ils portent à la cause des défenseurs.
Avant sa mort, Jamal Khashoggi avait écrit une dernière tribune pour le Washington Post. Une tribune qu'il n'a pas pu publier de son vivant, mais que le journal américain a rendue publique une fois son meurtre confirmé. Dans cette tribune relayée par l'UNESCO, lors de la Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes, Jamal Khashoggi avait réaffirmé son engagement pour la liberté d'expression dans le monde arabe. Une liberté pour laquelle il a perdu la vie. Depuis 2006, l'UNESCO a recensé plus de 1000 meurtres de journalistes. Son nom était Jamal Khashoggi, il avait 59 ans, il était saoudien, il était journaliste, il a été assassiné le lundi 2 octobre 2018, mais comme le souligne l'UNESCO, la vérité ne meurt jamais. Jamal Khashoggi, la parole est aux experts. Un magazine escale d'ONU Info présenté par Pascal Sim, avec les voix de Jérôme Bernard, Jérôme Longuet et Florence Westergaard, À la production, Carlos Macias et Florence Westergaard, le tout sur une musique de Mohamed Najem.